Bonsoir à tous, à toutes, aux citoyens et citoyennes bordelais ici présents. Donc, je me présente, je m'appelle Jean-Pierre Lefebvre. J'ai rencontré M. Rousseau, qui est instituteur à l'école Albert Barrault à Bordeaux. Et grâce à nos enfants, nous avons fait connaissance, puisque je suis délégué de parents d'élèves. Et à ce titre, nous avons pu découvrir que nous avions des passions communes qui étaient l'histoire, la transmission et la mémoire. Et ces deux passions font pour nous une chose très importante, ça les éclaire un peu notre présent. Donc je le remercie de sa confiance et de m'avoir proposé d'être le modérateur de cette soirée. Et j'espère ne pas vous décevoir ou le décevoir. Donc je vais y mettre tout mon cœur. Décidément, le cadavre de la Révolution française est toujours bien vivant. Ce livre est consacré à la vie de Jacques Roux. Et il permet une approche historique et pédagogique de cette période pour le moins agitée et fondatrice de notre modernité. Mais à l'origine de ce projet, c'est un peu le hasard qui s'invite. En effet, M. Dominique Rousseau est originaire d'un petit village de Charente que certains peut-être connaissent. Il s'agit de Saint-Thomas de Cognac. Et ce sera d'ailleurs l'objet de son premier ouvrage qui s'intitule « Saint-Thomas de Cognac, une histoire en bord d'estuaire ». Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la Charente, mais au bord de l'estuaire. C'est en effectuant ses recherches qu'il découvre que Jacques Roux a été vicaire de ce village juste avant la Révolution française. Et donc ce hasard aiguise son intérêt en tant qu'historien. Donc ce hasard fait bien les choses puisque c'est aujourd'hui ce qui nous rassemble, à savoir le second livre de M. Rousseau qui s'appelle « Le curé rouge » et qui concerne Jacques Roux, le vicaire de son village. Ce projet a vu le jour il y a quelques temps, et donc nous sommes là ce soir pour en parler et assister à la conférence de M. Rousseau. Alors, qui est ce vicaire Jacques Roux, qui a été un petit peu le leader, on va dire, des enragés au moment de la Révolution? C'est un jeune homme qui est né en 1752 à Pranzac, dans l'Angoumois, et qui est issu d'une famille plutôt aisée. Il suit des études de philosophie et de physique à la faculté de Poitiers, et à 20 ans devient professeur dans un séminaire. Je ne sais pas si c'est le séminaire où il avait commencé ses études. On nous le précisera tout à l'heure. Et puis, on le retrouve comme vicaire à Jonzac. Et ensuite, en 1788, il aboutit à Saint-Thomas de Cognac. Vie misérable, dans la solitude, isolé de toute vie intellectuelle, à l'image de ses pauvres paroissiens. J'insiste sur le côté pauvre. Suite à un prêche, il doit fuir sa cure. On l'accuse d'être à l'origine d'une jacquerie. Il se retrouve en 1790 à Paris, où il rejoint le club des Cordeliers, continuant ses prêches favorables à la Révolution. Donc 1790, le club des Cordeliers est un club révolutionnaire, et la fuite de Louis XVI et son arrestation à Varennes le 22 juin 1791 va radicaliser le discours de Jacques Roux et de ses amis. Il va s'en suivre une mobilisation qui aboutira le 17 juillet 1791 au massacre des Patriotes au Champ de Mars par la Garde nationale, sous les ordres de Lafayette. Je donne des petits repères comme ça pour plus tard. C'est un tournant dans la Révolution aboutissant à la proclamation de la République, à la déchéance et à la condamnation du roi. Et Jacques Roux est connu d'ailleurs pour être l'un des prêtres accompagnant Louis XVI sur l'échafaud. Il y a exactement 221 ans et 3 jours. On ne l'a pas fait exprès, mais bon, ça tombe à ce moment-là. Mais ce n'est pas seulement cela qui fait sa singularité, c'est d'avoir mis en avant la question sociale au cœur de son activité. Il a fait un discours à l'Assemblée connu comme le manifeste des enragés pour certains, qualifié comme tel, et qui d'ailleurs est assez contemporain. Je vous le cite, c'est un discours en forme d'anaphore, il n'y a aucun parallèle avec le plus connu et le plus récent. Voilà, la liberté n'est qu'un vilain fantôme quand une classe d'hommes peut affamer l'autre impunément. L'égalité n'est qu'un fantôme quand le riche, par le monopole, exerce le droit de vie ou de mort de son semblable. La République n'est qu'un vain fantôme quand la contre-révolution s'opère de jour en jour par le prix des denrées auxquelles les trois quarts des citoyens ne peuvent atteindre sans verser de larmes. Donc, ouais, un discours assez contemporain. La Convention ne peut laisser faire, elle réagit, elle le fait arrêter. Il se suicide en septembre 1793. non sans dénoncer la terreur sélective qui frappe les patriotes et les pauvres, d'après lui. Hein. Son groupe dit désenragé et dispersé, et notamment les femmes sont soumises à une répression qui est assez significative. Et puis ensuite viendra le tour des hébertistes. Robespierre, isolé, sera à son tour renversé, si je puis dire, par ce qu'on appelle la contre-révolution thermidorienne, mettant fin à la terreur et, d'après moi, à la période révolutionnaire. D'ailleurs, Robespierre, le jour de son arrestation, dira « La République est morte, les brigands triomphent ». Donc voilà, c'est pour l'aspect de l'histoire. Revenons à Jacques Roux, qui est un personnage pour le moins fascinant. Il est proche, mais en même temps rejeté par Marat. Il vit en ascète, auprès des miséreux, des femmes, des sans-culottes de sa section des Gravilliers. Son parcours d'homme du peuple illustre ainsi les différentes étapes et rythmes de la Révolution française, vus du côté de ceux d'en bas. Sans aucune ambition personnelle, méfiant envers les nouvelles institutions, partisan du mandat impératif, ce qu'on appellerait de manière moderne la démocratie directe, il est par son action un personnage dont les préoccupations en font un des précurseurs de la pensée révolutionnaire moderne. Le livre de Dominique Rousseau, en plus de ses qualités historiques et sociologiques, est très agréable à lire, car l'auteur a su incarner Jacques Roux. Alors, incarner dans le sens, il lui donnait chair, quoi. Hein. En suivant ce curé rouge, nous appréhendons mieux les méandres de la période révolutionnaire, souvent confuse, où les faits, guerres, trahisons, en sont d'autant d'accélérateurs, expliquant, justifiant ou condamnant la terreur, la réaction pour les uns ou le retour à un ordre pour tous les autres. Comme le dit Enzo Traverso dans son livre « L'histoire est un champ de bataille », hier et aujourd'hui encore, tant au niveau des idées et des interprétations, la Révolution française est bien un cadavre qui bouge encore, et le livre passionnant de Dominique Rousseau en est bien la preuve. Je lui laisse maintenant la parole pour sa conférence.
Merci. Donc, en effet, Jacques Roux est né à l'est d'Angoulême. Il a bien fait ses études à partir de l'âge de 14-15 ans au séminaire d'Angoulême. Et après ses études à Poitiers, il a été appelé au séminaire pour être professeur pendant plusieurs années. Mais plus tard, professeur au séminaire d'Angoulême, il sera amené à abandonner ce poste de professeur. Il y a eu quelques problèmes dans ce séminaire et finalement, il a mieux valu qu'il abandonnât ce poste. Et comme il était entré entre-temps dans les ordres, il avait été ordonné prêtre. Donc à ce moment-là, il a préféré vouer sa carrière au monde ecclésiastique. Et il est devenu vicaire. Il n'a pas pu obtenir une cure, il n'a pas pu être prêtre titulaire d'une cure, il est resté vicaire, et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il restera vicaire jusqu'au bout, et même, il n'abdiquera pas, sauf quand il sera en prison. Donc, jusqu'au bout, il va rester au service d'une église. Alors, pour l'instant, il va être vicaire dans différents endroits des Charentes, non sans avoir quelques ennuis, parce que c'est un homme qui a déjà une forte personnalité. Et quand on arrive aux années 1787-88, il y a déjà des idées nouvelles qui circulent un peu partout. Il faut savoir aussi que la Charente est un pays à forte imprégnation protestante, et que donc dans ces pays protestants, les idées nouvelles circulent déjà depuis un certain temps. On est habitué à la contestation dans ces pays-là, et ce n'est pas pour lui déplaire, je suppose. Je fais des suppositions au début du livre, j'essaie de planter le décor en ce qui concerne le monde de la religion, le monde des prêtres en Charente à cette époque-là. Ce qu'on ne sait pas exactement, ce sont les livres qui ont pu influencer sa pensée. Hein. Ça, il ne nous a pas dit exactement ce qu'il lisait, mais il y avait beaucoup de livres qui circulaient, sous le manteau, ce qu'on appelait les libelles. Et donc, les idées étaient de plus en plus s'imposer de plus en plus dans ce diocèse de Saintes, parce qu'il va rejoindre le diocèse de Saintes, et l'évêque de Saintes va essayer de tenir d'une main de fer ses prêtres et ses vicaires pour ne pas qu'ils partent un peu dans tous les sens avec leurs nouvelles idées. Ça sera difficile, parce que de toute façon, la révolution approche. Et quand Jacques Roux arrive à Saint-Thomas-de-Conac en septembre 1788, il va arriver à un moment crucial de l'histoire de France, puisque nous allons nous engager bientôt dans la Révolution française. Et toute l'année 1789, Jacques Roux sera en poste à Saint-Thomas. Et ce qui le fait le plus marquant, ce n'est pas cette année 89, parce qu'il ne s'est rien passé dans notre Sud-Saintonge, Sud-Charente-Maritime aujourd'hui, à ce moment-là. Mais il y a eu une émeute très importante qui s'est produite, une insurrection au début de 1790. Alors, dans quelles conditions ça s'est passé? Jacques Roux commençait à avoir quelques prêches un petit peu hauts en couleur, si je puis dire, avec ses idées nouvelles. Et il a fait un discours très important dans cette église, probablement dans le courant du mois d'avril 1790, un discours qu'il a appelé « Triomphe des braves Parisiens », qui ont été les héros du 14 juillet 89. Il fait ce discours dans l'église, l'église est pleine de monde, un discours très remarqué, et c'est un discours qui est à la gloire de ceux qui ont pris la Bastille quelques mois plus tôt. Et ce discours est aussi un discours fidèle au roi. Hein. Tout à l'heure, on a parlé de Varennes. Mmh. C'est vrai que Varennes est un basculement, parce qu'à partir de Varennes, à partir de la fuite du roi et de la reine, les sentiments pour le roi et la reine vont totalement changer dans les rangs révolutionnaires. Mais en 90, on était encore royaliste. Donc, il est fidèle au roi. Il est fidèle aussi à Dieu, c'est-à-dire qu'il commence à critiquer l'ordre ecclésiastique, critiquer cet impôt au nid du peuple qu'est la dîme et qui est si mal réparti, si mal employé. Alors, tout ceci est sous son invective, il ne se gêne pas. Mais malgré tout, il reste quand même fidèle à ce que beaucoup appelleront pendant la Révolution fidèle à une certaine idée de la religion des origines, une certaine idée de Dieu, mais Dieu dans le Dieu de l'Évangile, c'est-à-dire, hein, sans toute l'interférence qu'il y aura ensuite avec le clergé. Hein. Et ça, pendant toute la Révolution, il restera fidèle à cette idée. Et il fait aussi dans son discours un éloge à la liberté. Liberté, fille du ciel, dit-il, mère de la nature. Et pendant toutes ces années, bien sûr, tout le monde va se battre au nom de la liberté, mais vous savez comment, hein, malheureusement. Il fait aussi, et ça c'est extraordinaire, je le dis tout de suite parce qu'on y reviendra tout à l'heure, dès 90 dans ce discours de l'église de Saint-Thomas, un hommage aux femmes. Il rend hommage aux femmes, à leur gloire, à leur courage. Et moi, je pense qu'il fait allusion aux journées d'octobre. Vous savez, en octobre 89, quand les femmes se rendent à Versailles, elles vont voir le boulanger, la boulangère et le petit mitron. Elles vont chercher du pain. Et en fin de compte, ils obtiennent du roi et de la reine qui viennent s'installer à Paris, de force, bien sûr. Donc, ils ne vivront plus à Versailles. Les femmes étaient en tête de ce cortège. Il a plu, comme aujourd'hui. Pendant 2 jours, elles étaient très courageuses. Il rend hommage. Croyez-moi que ce n'est pas une mince affaire, parce qu'on en reparlera, j'espère, tout à l'heure des femmes. Mais peu dans la Révolution ont rendu hommage aux femmes de cette manière, car on était quand même encore assez peu porté pour vouloir donner la parole aux femmes pendant la Révolution. Mais elles l'ont prise, cette parole, les femmes. Hein. Donc on était plutôt misogyne, pas Jacques Roux, et il aura besoin d'elles parfois, ou peut-être qu'elles auront besoin de lui. Et donc, suite à ce discours, il disparaît. Et là, il va y avoir quelques jours plus tard cette fameuse insurrection des paysans ou des artisans qui vont s'élever contre les seigneurs locaux, parce qu'on a déclaré l'abolition des privilèges quelques mois plus tôt, mais les privilèges sont toujours là, les lois ne sont pas appliquées, les gens sont en colère. Une telle colère que plusieurs centaines de personnes vont se soulever, ils vont brûler 2 châteaux dans la région, tout près de Saint-Thomas. Évidemment, ça va être un émoi considérable, parce que dans le sud de Saint-Onge, on n'était pas habitué à ça, c'est la première véritable émeute. Et donc, on va faire venir la troupe, on va faire venir des gardes nationales, des centaines de soldats vont venir pour contenir cette insurrection. Il y aura des arrestations. Voilà, mais vous savez, quand il y a une insurrection, on cherche toujours le leader. Qui est à la tête de cela? Eh bien, c'est très simple, ils l'ont tout de suite nommé le leader. Ils l'ont nommé, c'est Jacques Roux, c'est à cause de lui, c'est à cause de son discours dans l'église. Et mais Jacques Roux a disparu. Il n'est plus là. Il ne reviendra plus d'ailleurs. Et il sait bien que ça pourrait chauffer très fort pour ses oreilles. Donc, il ne reviendra plus sur ces terres. Il va réapparaître quelques temps plus tard dans une petite commune de Charente. Et là, il a osé réapparaître et même osé demander à être titulaire de la cure de cette petite paroisse. On lui a refusé. Vous voyez, on lui refuse sa cure. Et c'est là que le destin bascule pour lui. Ah bon, vous ne voulez pas? Vous ne voulez vraiment plus de moi? Je pars. Il part. En se considérant comme un martyr, il part en se considérant comme un persécuté. D'ailleurs, il n'aura de cesse de se considérer l'un et l'autre jusqu'à sa mort. Il part, si on l'avait accepté sa cure, c'est incroyable, il ne serait peut-être jamais monté à Paris. Il n'aurait jamais eu le destin qu'il va avoir maintenant. Car il réapparaît à Paris quelques mois plus tard, c'était probablement vers l'automne 90. Quand il arrive à Paris, il s'installe dans le quartier Saint-Sulpice, il fréquente le club des Cordeliers, très bonne fréquentation pour lui. S'il a l'âme révolutionnaire, c'est exactement le club qu'il faut qu'il fréquente. Le club des Cordeliers, c'est le club de Danton, c'est le club de Marat, c'est le club de Camille Desmoulins, le club d'Hébert. Donc, que du monde bouillonnant qui vient dans ce club, un club sympathique, populaire, le droit d'entrée est très peu élevé. Qui est-ce qui vient dans ce club ? Même les femmes, les enfants se sont acceptés. Vous voyez, il y a quelque chose de vivant dans ce club. C'est ce qu'il lui faut. Et c'est là qu'il va fourbir ses premières armes révolutionnaires. Et alors, il va rester dans ce quartier Saint-Sulpice, toujours avec le titre de vicaire en Saint-Onge. Il avait même changé de nom quand il est arrivé à Paris. Après, il récupérera son vrai nom. Il publie, il fait publier, parce qu'il aime beaucoup faire publier, vous verrez. Il fait publier son discours de l'église, dans l'église de Saint-Thomas de Conac. Vous voyez l'importance que cette aventure a eue pour lui, cette aventure et cette insurrection aussi à Saint-Thomas. Ça va le poursuivre pendant plusieurs années. Même Marat ne manquera pas de lui rappeler de temps en temps. Mais enfin, à Conac, tu te souviens de ce que tu as fait ? Enfin bon, on y reviendra à tout cela. Et en janvier 91, dans cette église Saint-Sulpice, qui est une église, je ne sais pas si vous la connaissez, alors au moment de la Révolution, il n'y a pas très longtemps qu'elle est terminée. C'est une église récente, bienveillante pour les révolutions, dont la Révolution de 89. Beaucoup vont se rallier dans cette église, y faire des discours. Et Jacques Roux va jurer fidélité à la Constitution, dans l'église, à ce moment-là. Et ensuite, il va briguer, puisqu'il maintenant il est redevenu, comment dirais-je, en odeur de sainteté. Il est un prêtre révolutionnaire, il est en accord avec toutes les idées nouvelles. Mieux que ça, il est l'un des premiers à jurer fidélité à la Constitution civile, la nouvelle Constitution. Il est donc un prêtre assermenté, un prêtre constitutionnel. On va lui donner une cure. Il va aller s'installer rive droite dans le quartier des Gravilliers, qui est un quartier très populaire, avec beaucoup de monde, un quartier. Alors c'est le quartier, il va s'installer, il va être vicaire dans l'église de Saint-Nicolas-des-Champs, à côté des Arts et Métiers. Et donc là, il va rester vicaire dans cette paroisse, ça y est. Il a un poste, si je puis dire, et mieux que ça, il a un salaire. Parce que quand on était un prêtre qui jurait fidélité à la Constitution, on était constitutionnel, donc on avait un petit salaire, parce que c'était prévu dans la clause de cette loi. Si vous étiez un prêtre assermenté, alors vous aviez droit à votre petit salaire versé par l'État. Vous devenez un agent de l'État. Alors vous vous doutez bien que tous les prêtres réfractaires, eux, malheureusement, ils ne toucheront rien. Enfin, malheureusement, ils ne voudront rien toucher de toute façon. Alors il devient vicaire et il participe à cette vie bouillonnante dans le quartier des Gravilliers. Et très souvent, il refranchit le pont au-dessus de la Seine, il revient dans le quartier rive gauche, il vient très régulièrement au club des Cordeliers. D'ailleurs, il y sera fidèle jusqu'à sa destitution. Et il va comme ça traverser toute l'année 91 en étant avant tout un vicaire qui fait même des extras dimanches, puisqu'il va donner la messe à Pantin. Il sera payé plus tard pour ses extras. Et puis, il commence véritablement à se faire connaître, parce que là, il n'est pas vraiment très connu, en 92. Alors là, à partir de 92, il assiste d'abord à des mouvements de colère dans les quartiers populaires dans Paris. Alors, il voit bien ce qui se passe. Il voit bien que les gens sont très affaiblis par la crise économique, parce qu'à ce moment-là, dans Paris, c'est très dur d'y vivre. Hein. Le pain est rare, il est cher. Et les grains arrivent difficilement dans la ville. Il y a donc de la pénurie. Il y a aussi la pénurie de deux denrées, de deux produits que les Parisiens raffolent dorénavant. C'est le sucre et le café. Mais il y a des révoltes à Saint-Domingue et on a du mal à ce moment-là à faire entrer ces produits. Donc les gens râlent et puis les prix, bien sûr, flambent. Donc il y a donc des premières émeutes, premiers pillages dans cette année 92. Jacques Roux voit bien tout ce qui se passe et c'est ce qui va nourrir ses premiers discours assez soutenus quand même, hein. Et il va commencer à se rendre célèbre au printemps 92 quand il va dire, il y a un discours qu'il va prononcer sur les moyens de sauver la liberté, la France et la liberté. Et ce discours, il va le prononcer dans différentes églises et également à l'église Notre-Dame. Donc, autant vous dire qu'il commence déjà, comment dire, à prendre du galon. Il commence déjà à être connu, hein, parce qu'il va quand même dans des églises pleines de monde. Et il commence à exposer ses idées qui seront ses idées phares en 93, c'est-à-dire qu'il va s'élever contre l'accaparement, contre tous les stockages qui sont illégaux. Les gens stockent les marchandises, stockent les grains pour les remettre sur le marché à plus cher, c'est-à-dire c'est tout simplement de la spéculation, on disait l'agiotage. Et il y a des entrepôts partout, il y en a qui sont dissimulés jusque dans les églises. Évidemment, cette spéculation, très vite, avec acharnement, Jacques Roux va dénoncer cela et le dénoncera jusqu'au bout. Ça, c'est une ligne, si vous voulez, chez lui. Il ne sortira jamais de cette ligne-là. Toujours, il dénoncera la spéculation. Il dénoncera avec véhémence l'enrichissement personnel de tous ceux qui profitent de la révolution, car ils sont nombreux, je peux vous dire. Il n'y a pas que des miséreux dans cette révolution. Il y a ceux qui profitent de cette situation nouvelle, puisque maintenant, nous sommes à l'ère de la liberté. Liberté écrite dans la Constitution, et surtout celle de 93. Liberté inscrite aussi dans les droits de l'homme et du citoyen, proclamée en 89, mais liberté aussi dans le commerce, liberté dans tout, c'est-à-dire que nous sommes au début de ce qu'on pourrait appeler le capitalisme moderne. Donc, tel que nous le connaissons aujourd'hui, eh bien, il avait déjà son germe, et même plus que son germe, il avait pris naissance et il avait fleuri, si je puis dire, dans cette révolution, ce capitalisme-là, et bien sûr, beaucoup profité de la situation pour s'enrichir. Et je peux vous dire que même dans les rangs des plus révolutionnaires, il y en a qui se sont enrichis aussi, ce qui n'a pas été le cas de Jacques Roux. Jacques Roux, lui, on peut au moins lui reconnaître cela, on lui fera peut-être des reproches, mais il ne s'est pas enrichi pendant cette révolution. Et alors, ensuite, il va traverser l'été, il va bien voir ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il y a cet événement très grave qui est l'attaque du palais des Tuileries le 10 août. Là, on n'a pas véritablement trace de sa présence dans l'événement. Mais ce qu'on sait, c'est qu'après la prise des Tuileries, le roi et la reine sont mis en prison. Et Danton et d'autres vont vouloir instaurer un tribunal révolutionnaire pour juger tous ceux qui ont voulu soutenir la royauté, le roi, la reine, dans ces événements. Et là, Jacques Roux envoie une lettre à Danton. Et il se propose d'être parmi ses juges et il dit même dans sa lettre qu'il ne sera pas tendre du tout. Danton ne lui répond pas, donc finalement ce tribunal ne se mettra pas en place, ce n'est pas là qu'il va faire carrière. Ensuite, suite à la prise du palais des Tuileries, on abandonne l'Assemblée législative, on va voter pour une nouvelle Assemblée qu'on appellera la fameuse Convention. Et là, il va essayer à sa section des Gravilliers de se présenter, mais en 3 tours de scrutin, il n'emportera qu'une seule voix. Décidément, il n'aura pas de succès dans la politique. Mais ce qui est un peu logique aussi, parce qu'il n'aura de cesse à partir de ce moment-là de critiquer la représentation nationale, de critiquer le système classique de gouvernement avec les personnes, la représentation nationale, avec les personnes élues, ce qu'on appelle les élus aujourd'hui, qui sera critiqué plus tard par lui et par ses amis. Donc, de toute façon, il rate sa carrière en politique. Ce n'est pas grave, il va essayer continuer à marteler ses discours là où il peut le faire. Et en particulier, le mois de décembre est très important. En décembre, le roi est jugé. Il est jugé, pas par un tribunal, il est jugé à la Convention. Le roi a trois avocats, dont un de Bordeaux, Romain de Sèze. Jacques Roux, lui, à ce moment-là, va faire un discours très, très dur contre le roi, car il est absolument pour la mort du roi, pour l'exécution du roi. Et ce discours s'appelle « Discours sur le jugement de Louis le Dernier », je vous laisse apprécier le titre, de Louis le Dernier, sur la poursuite des agioteurs, aussi des accapareurs et des traîtres. Donc, il fait ce discours, il fait partie de tous les montagnards, lui et les montagnards, qui voulaient la mort du roi, et vous savez qu'elle sera votée en janvier. Mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est que comme il était à la section des Gravilliers, il va être nommé par la Commune de Paris, représentant de la section des Gravilliers pour intervenir auprès de Louis XVI. D'abord, il va participer avec une petite délégation à une visite du roi et de la reine au temple. Bon, pas une visite très tendre, le roi se plaint de ses dents, on ne fait rien pour lui. Tiens, comme toujours, ils ne sont pas très tendres avec le roi. Mais surtout, c'est pas ça le plus important, c'est qu'il est désigné par la commune. La commune désigne deux prêtres. Alors, ils essaient de trouver deux prêtres pas trop tendres, qui sont capables de soutenir le choc. Il faut qu'ils accompagnent le roi à l'échafaud. Et le 21 janvier 93, Jacques Roux fait partie de ceux qui accompagnent le roi à l'échafaud. Alors là, il y a une toute petite anecdote. Le roi, le matin même, avant de partir à l'exécution, aurait tendu un document à Jacques Roux, lui demandant de le rendre peut-être à la commune, justement. C'était une sorte de testament et Jacques Roux le lui refuse, lui disant, lui aurait dit, parce qu'on n'en est pas complètement sûr, non, non. Moi, je ne suis ici que pour vous mener à l'échafaud. Et alors, cette anecdote, même si elle n'est pas vraie, même si elle n'est pas vraie, n'empêche qu'elle va ternir la réputation de Jacques Roux. On va faire de lui un homme sans cœur, un homme dur, qui n'est même pas capable d'accéder à la dernière volonté du roi avant sa mort. D'ailleurs, lui-même s'en vantera un petit peu après l'exécution. Il racontera à tout le monde comment ça s'est passé, comment la tête du roi a basculé dans le panier. Il était là, lui, il était là. Sur cet échafaud, il racontera tout cela, il s'en vantera un petit peu, c'est vrai. Bon, alors dans son discours de décembre, donc il est question du roi, mais il est question aussi, on revient toujours sur ce même thème, c'est-à-dire qu'il faut s'en prendre à tous ceux qui sont pour lui des parasites, tous ceux qui sont de véritables vampires dans la révolution, c'est-à-dire ceux qui risquent de faire échouer cette révolution parce qu'ils n'agissent pas dans l'intérêt du peuple en général. Et donc, c'est là qu'il aura toujours ce mot à la bouche. C'était les femmes du quartier, quand elles parlaient de Jacques Roux, elles disaient « Ah, le curé Roux, il n'a toujours qu'un mot à la bouche, le mot accapareur », c'est-à-dire les gens qui s'accaparent les marchandises et qui spéculent là-dessus. Et Jaurès disait, je vous lis, « Accapareur, voilà un mot de guerre nouveau à signification sociale. Jacques Roux ne l'a pas introduit dans le langage de la Révolution, mais il lui a donné un mot. À ce mot, il a donné un sens plus plein, il lui a donné un plus vaste retentissement. » Eh bien oui, s'il y en a un qui a prononcé ce mot beaucoup pendant la Révolution, c'est lui. Et ça ne sera pas sans conséquence d'ailleurs en 93. Alors, il s'engage donc dans cette année 93, et c'est là qu'il va mener avec d'autres plus jeune que lui, un véritable combat pour essayer de faire évoluer la révolution dans le sens des intérêts du peuple. Parce que jusqu'à présent, on a considéré que les deux, trois premières années étaient une révolution, c'est vrai, qui avait été faite par les bourgeois, c'est-à-dire des gens qui n'étaient pas des nobles, qui, eux, avaient de l'argent, faisaient commerce et profitaient de la révolution, bien entendu, pour s'enrichir un peu plus. Il fallait que cette révolution ait un système économique qui soit au profit de cette classe. D'ailleurs, eux-mêmes auraient voulu que la révolution s'arrête en 92. Mais tout le monde, et Robespierre en tête, bien sûr, tous les montagnards ne veulent pas que cette révolution s'arrête. Ils veulent que ça continue, et ils veulent que ça continue pour qu'elle soit plus populaire. Et évidemment, Jacques Roux, lui, va faire partie de ceux qui vont se battre pour que cette révolution soit populaire. En février, février 93, il va y avoir une journée, le 25, une journée d'émeute dans Paris, et même, on peut dire, de pillage, c'est-à-dire que les femmes vont entrer dans les boutiques, elles vont forcer les commerçants à livrer des marchandises à un prix raisonnable, c'est-à-dire à baisser les prix, parce que ces prix spéculatifs ne sont plus soutenables pour les pauvres gens de la ville. Alors donc, c'est une journée qui fait très peur, parce que c'est une journée d'ampleur dans de nombreux quartiers. Les boutiques ont été forcées, on a forcé les gens, les boutiquiers, les commerçants, soit à vendre à bas prix, soit on leur a pris carrément leurs produits, en particulier leur savon, leurs chandelles. Le savon était très important à l'époque, il y avait beaucoup de lavandières, et les femmes étaient très, 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 très soucieuses du prix de tous ces produits dont elles avaient tant besoin. Alors cette journée du 25 février, eh bien, il va falloir qu'il s'en explique, Jacques Roux, parce que beaucoup pensent que c'est un peu comme pour Saint Thomas, beaucoup pensent que c'est quand même lui qui est l'instigateur de cette journée. C'est vrai qu'il les avait un peu incités, les femmes quand même, à forcer un petit peu la porte des boutiques si elles n'obtenaient pas Gain de cause. Et 3 jours plus tard, devant le Conseil général de la commune, Jacquot est un petit peu obligé de s'expliquer, quoi. Leur dire, oh ben, vous savez, les épiciers ne faisaient que restituer aux pauvres, à un petit prix, ce qu'ils avaient volé depuis longtemps. Voilà, ça, c'est sa justification. Finalement, il ne sera pas inquiété, mais on a eu peur ce jour-là, hein. On a quand même eu peur que dans Paris, une véritable insurrection lève et qu'on ne puisse pas la contenir. C'était ça surtout. Et à partir de ce moment-là, vous avez des hommes comme Robespierre, qui n'était pourtant pas tendre, il faisait quand même partie des Montagnards, vont se méfier terriblement de ces hommes, parce que pour lui, ils étaient incontrôlables, quoi. Ils étaient tellement populaires auprès du petit peuple dans Paris. Ils étaient tellement capables de les inciter à, on dirait aujourd'hui à manifester, mais enfin, il s'agissait quand même d'émeutes parfois, hein, donc de cris de colère. Hein. Il y en a eu plusieurs comme ça en 93. Et ça faisait peur à ceux qui voulaient une révolution plus institutionnelle, quoi, avec un gouvernement, avec des lois. Et là, c'est vrai que par moments, on a l'impression qu'on ne contrôle plus la situation. Alors, dans cette année 93, Jacques Roux n'est pas le seul. Il va faire partie de ce courant radical que l'on appelle les enragés. Alors, des enragés, ce mot enragé, il a beaucoup couru sous la Révolution. Hein. Hébert était un enragé. Si on n'était pas content de Robespierre, c'était un enragé. Ils étaient tous plus ou moins des enragés. Vous aviez un club de la Révolution qui n'était pourtant pas très véhément, je pense, au début de la Révolution, au tout début, hein, on les appelait le club des enragés. Ah oui. Hein, c'était peut-être de bons petits bourgeois qui voulaient des idées nouvelles, c'est tout, mais déjà, on les trouvait enragés. En 93, des enragés, c'est autre chose. Hein, c'est des gens qui sont...
Et en 68, considérés... encore autre chose. Hein.
Alors, en 68, le terme va revenir. Hein, Le terme va réapparaître. Mmh. Alors, les historiens, eux, ils ont retenu ce terme d'enragé pour un groupe, au moins un groupe de 3-4 hommes, Jacques Roux, un autre qui s'appelait Varlet, un autre qui s'appelait Leclerc, et puis aussi pour des femmes, car il y a les citoyennes révolutionnaires qui vont se constituer en groupe, presque comme un parti, même si ce n'était pas tout à fait ça. Et ce groupe-là, ce groupe des enragés hommes et des enragés femmes, c'est un groupe qui va faire parler de lui beaucoup jusqu'à l'automne de cette année 93, parce que ils vont avoir des positions très dures dans la Révolution. Hein, une position, on dirait, un peu d'extrême-gauche aujourd'hui, quoi. Et donc, ils inquiètent un petit peu parce qu'on a l'impression qu'on ne peut pas les contrôler. Et donc, ils vont être quand même très, très, très présents sur la scène, très présents. Et les femmes, donc. Les femmes. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Alors, ces femmes révolutionnaires, Pauline Léon, elle s'appelait, Claire Lacombe, une actrice, elles se sont constituées en groupe véritablement reconnu et déclaré au mois de mai. Ça ne durera que quelques mois, ça va être très court, parce qu'elles vont être sommées de se taire. Mais elles faisaient terriblement peur. C'est vrai que je pense que certaines d'entre eux étaient violentes. Et donc... Elles ont donné de la voix et elles ont fait peur parfois. Elles étaient traitées de tous les noms. Déjà, je disais en préambule tout à l'heure que les femmes étaient déjà quand même pas très bien considérées pendant la Révolution, mais celle-ci, c'était pire.
Bah, en 1070, il y avait les pétroleuses aussi, non ?
Voilà,
les femmes sont toujours...
Elles sont absolument déconsidérés, et vous en avez comme le Fabre d'Églantine qui les appelait les grenadiers et femelles. Hein. Et donc, elles vont donner de la voix, et les enragés aussi vont donner de la voix, en particulier au mois de juin, quand arrive devant l'Assemblée, la Convention, la nouvelle Constitution. Robespierre est fier de son texte, il le défend devant la Convention, mais vous avez quelques-uns qui, eux, pense que cette constitution nouvelle ne va pas assez loin. Et donc, les enragés vont se battre pour que cette constitution aille plus dans le sens des intérêts du peuple. Mais je voudrais dire une petite chose que j'ai oubliée avant de parler de ce qui s'est passé pour amender un petit peu quelques textes de cette constitution. C'est ce qui s'est passé entre le 31 mai et le 2 juin 1993. Car là, il y a eu un véritable état de siège autour de l'Assemblée, parce qu'on a voulu mettre en arrestation 31 députés girondins, dont certains sont d'origine d'ici. C'est pour ça qu'on les appelle les Girondins. Pourquoi on a voulu mettre en arrestation les chefs girondins ? Parce qu'on considérait justement qu'ils n'allaient pas, qu'ils ne faisaient pas évoluer la révolution dans le sens où eux, les montagnards, voulaient qu'elle évolue, c'est-à-dire avec des lois qui puissent bénéficier au peuple. Et puis, aussi parce qu'on reprochait aux Girondins d'avoir déclenché la guerre l'année d'avant, qu'après tout, si nous étions en guerre, c'était leur faute, parce qu'ils l'avaient soutenue, cette guerre, ils l'avaient voulu. Et maintenant que la guerre était bien présente sur nos frontières, et maintenant nous avions une guerre intérieure en Vendée, c'est vrai qu'il y avait une situation absolument chaotique en France, même très inquiétante. Et finalement, ces pauvres Girondins, on leur reprochait tous les maux. Il fallait de toute façon un bouc émissaire, et c'était eux qui étaient la cause de tous ces maux. Et on les a mis en arrestation, on a réussi finalement à les chasser de la Convention, et plus tard, ils seront arrêtés, et vous savez qu'ils seront guillotinés en octobre. Et on peut dire que les enragés, hein, Jacques Roux en tête, ont fait partie de ceux qui ont vraiment tout fait pour que ces Girondins soient mis à l'écart et arrêtés, et jugés. Donc, nous étions dans des temps durs à cette époque-là, des temps. Et on était... On était dur et c'est vrai que dans le camp des enragés, on avait quand même tendance à beaucoup réclamer la peine de mort. Beaucoup réclamer la peine de mort, il fallait punir tous ceux qu'on considérait comme des traîtres à la Révolution. Comme disait un historien, nous étions à ce moment-là dans la culture du soupçon. On soupçonnait tout le monde, on pensait que tout le monde complotait contre cette Révolution, qu'il y avait des traîtres partout, même dans l'armée. C'est vrai qu'il y avait des généraux qui parfois basculaient de l'autre côté dans le camp ennemi. Et ça, c'était très, très, très mal considéré. Ça, je peux vous dire que tous ces traîtres-là, il fallait les mettre en arrestation. Alors, nous sommes à un moment donc, où on soupçonne tout le monde de faire capoter la Révolution, même Jacques Roux. Il va tellement loin, quelquefois, qu'on finit par lui dire qu'il fait le jeu du camp ennemi, qu'il fait finalement le jeu de ceux qui voudraient le retour de la royauté. Ça peut paraître un comble pour Jacques Roux, mais hein, vous voyez comment les situations peuvent se retourner quelquefois. Alors, je reviens à la constitution défendue par Robespierre dans ce mois de juin. Alors, que disent Jacques Roux et les autres, tous ceux qui sont dans la même pensée que lui ? Ils pensent que tout simplement, il va falloir revoir quelques passages de cette constitution parce que, évidemment, cette constitution n'est pas suffisamment... ne défend pas suffisamment les intérêts du peuple. Alors ils préparent avec un groupe, ils ont nommé plusieurs personnes, un groupe de travail pour écrire une pétition, c'est-à-dire pour présenter un texte qui soit lu en assemblée ou en public pour défendre les idées, pour défendre ces amendements, pour que le texte soit modifié. Finalement, comme il sera empêché de parler par Robespierre le 23, c'est le 25 qu'il choisit de s'exprimer devant la Convention. Et c'est là, le 25 juin, qu'il va faire le discours le plus important sans doute de sa carrière révolutionnaire, puisque c'est un discours où, imaginez, Jacques Roux, vicaire, il est devant cette assemblée, tout le monde est là, tous les députés de la Convention, ils sont là pour l'écouter. Tout de suite, d'emblée, quand il commence son discours, il commence déjà dans l'invective, il s'en prend à eux, ils estiment que finalement, ils ne font pas leur travail. L'acte constitutionnel va être présenté à la sanction du souverain. Y avez-vous proscrit l'agiotage ? Non. Y avez-vous prononcé la peine de mort contre les accapareurs ? Non. Avez-vous déterminé en quoi consiste la liberté du commerce ? Non. Eh bien, messieurs, nous vous déclarons que vous n'avez pas fait tout pour le bonheur du peuple. Alors là, je peux vous dire ça grondait dans l'Assemblée. Hein. Ça ne leur a pas plu du tout. Il commence déjà à leur faire la leçon. Il le paiera cher, ça. Il le paiera cher. Alors, on était là. C'est quand même intéressant. Vous n'avez pas tout fait pour le bonheur du peuple. Eh oui, parce qu'à ce moment-là, c'était nouveau. On se préoccupait pour le bonheur du peuple. C'est là que cette année-là que Saint-Just, peut-être l'année d'après, aura cette fameuse phrase. Le bonheur est une idée neuve en Europe. C'était une idée neuve, le bonheur, parce que c'est peut-être vrai que, surtout chez les gens les plus démunis, on ne s'était pas vraiment posé la question « suis-je heureux, suis-je pas heureux ?» On avait trop de problèmes, la vie était trop difficile. Eh bien, dit-il, vous n'avez pas tout fait pour le bonheur du peuple. Et c'est là qu'il a cette phrase si célèbre, qui a été lue en préambule tout à l'heure et qui est en quatrième page de couverture, d'ailleurs, ici. « La liberté n'est qu'un vain fantôme, pas un vilain, hein, un vain fantôme. » Quand une classe d'hommes peut affamer l'autre impunément, l'égalité n'est qu'un vain fantôme quand le riche, par le monopole, exerce le droit de vie et de mort sur son semblable. Arrêtons-nous un instant là-dessus. Allons-nous dire que les enragés, aussi extrêmes ont-ils été, étaient contre les droits de l'homme ? Non, c'est pas ça la question. C'est pas qu'ils étaient contre les droits de l'homme, même s'ils étaient pour la peine de mort. C'est qu'ils disent « À quoi sert de vouloir promettre la liberté au peuple ?» Si vous ne vous en donnez pas les moyens, si vous ne donnez pas les moyens aux gens d'être libres, à quoi sert de leur donner, de leur promettre l'égalité si vous n'en donnez pas les moyens de cette égalité? Alors tout ça, dit-il, eh bien, ce n'est qu'un vain fantôme. Vous pouvez toujours discuter, vous pouvez toujours produire de beaux textes, ça ne servira à rien parce que vous ne mettez pas tous vos moyens pour faire, pour que cette révolution profite à tout le monde. Car c'est de cela dont il s'agissait, il fallait que ça profite à tout le monde. Voilà donc l'idée forte de cette phrase qui est restée célèbre. Et bien entendu, dans ce discours, il revient sur tous ces fripons, tous ces vampires, dit-il, qui accaparent les grains, qui accaparent les marchandises, qui les remettent sur le marché à des prix spéculatifs. Il faut savoir qu'à cette époque-là, c'est vrai qu'il y avait quand même des fripons hein, parmi les commerçants, parce que il y avait des gens, par exemple des paysans qui produisaient des céréales, qu'ils revendaient à l'étranger, alors qu'on était, nous, en pénurie, pour les revendre à un prix fort. Alors tout ça, évidemment, était dénoncé avec véhémence dans les discours. Bien, il s'est fait plaisir, Jacques Roux, hein, ce 25 juin 1993, je peux vous dire. Il a fait le discours de sa vie. Alors, je ne sais pas si je fais la conférence de ma vie ce soir, j'espère que je n'aurai pas tous les ennuis que lui a eu après. Car évidemment, on va lui faire payer. Hein? Et d'ailleurs, quand on va l'emprisonner, parmi les chefs d'accusation, il y aura le non-respect à la représentation nationale, non-respect aux députés. Hein? Eh bien oui, mais Jacques Roux, il a voulu mettre le doigt là où ça fait mal. Tiens, je me souviens d'un passage de ce discours où il disait... Oui, oui, vous là, vous discutez beaucoup, vous-même, vous les montagnards, hein, vous êtes à gauche, bien, d'accord, mais, j'exagère quand je dis à gauche, il n'a pas dit ça, mais moi, dit-il, moi je vais à la rencontre des petites gens, et moi, dit-il, moi je les monte les 9 étages, preuve quand même que les maisons étaient assez hautes dans Paris, moi je vais jusque là-haut, moi je les monte les escaliers jusqu'au 9e étage pour aller voir les petites gens. Vous savez qu'aujourd'hui on reproche aux hommes politiques de ne pas aller voir les gens qui sont en difficulté, ben, c'était peut-être la même chose à l'époque, le même reproche, ils disaient, moi j'y allais, moi j'y vais, vous n'y allez pas. Tout ça, c'était dans son discours, exprimé mieux que moi, parce que ces gens-là, tous, ils écrivaient très bien. Je ne parle pas de Weber dans son journal, qui était quand même un peu ordurier, mais tous les autres, ils s'y exprimaient très bien, relisaient les discours de Robespierre, même de Saint-Just, relisaient les discours de... Il y a beaucoup d'extraits ici dans mon livre de discours de Jacques Roux. Et ce n'est pas pour rien que je mets ces extraits. D'abord parce que je voulais que le lecteur entende la parole de Jacques Roux, mais aussi qu'il lise sa langue, parce que c'est quand même une langue fleurie, c'est une belle langue. Hein. Jacques Roux s'exprime très bien. Et alors il s'exprime tellement bien que tout le monde a bien compris ce qu'il avait dit, et Robespierre en tête. Et à partir de ce moment-là, Robespierre ne va plus le lâcher. 5 jours plus tard, une délégation arrive au club des Cordeliers, avec Robespierre, Hébert, Collot d'Herbois, qui va faire une enquête sur Jacques Roux et son passé à Angoulême.
On en revient. Ouais.
Voilà. Robespierre au club des Cordeliers. Oh, là, il y a eu silence, parce que ce n'était pas son club, Robespierre, il était aux Jacobins. C'était trop bouillonnant pour lui, pas assez réfléchi. C'était pas son club. Or, il vient ce jour-là. Ah, Robespierre est là. Pour dire quoi ? Eh bien, pour s'en prendre à Jacques Roux. Et il vient faire un discours pour demander au club des Cordeliers d'excommunier Jacques Roux, suite à son discours. Excommunié du club, il le sera. À partir de ce moment-là, sa vie révolutionnaire va être difficile. Ça va être difficile parce qu'il va rencontrer pas mal d'écueils. Mais il y a un nom que je n'ai pas cité encore, c'est lequel ?
Marat.
Voilà.
Bah oui. Alors. Le fameux Marat. Donc, qui était quand même son, comment dirais-je, s'emporte son drapeau, quoi, en fait. Hein. Il était très proche de lui au tout début.
Au niveau des idées.
Eh oui, oui.
Et Jacques Roux était appelé le petit Marat. Alors, quand vous savez que Marat était quand même quelqu'un qui avait une verve assez terrible, hein, il avait des propos très durs, il était détesté, tellement détesté que Charlotte Corday va lui rendre visite avec son couteau. Donc, Jacques Roux, dans la même veine, lui se faisait appeler le petit Marat. Et ça, il ne le détestait pas, ça, de se faire appeler comme ça. Ça ne lui déplaisait pas parce qu'il était admiratif de Marat. Marat était moins admiratif de Jacques Roux parce que c'était pour lui, Jacques Roux, c'était un rival. Donc, ça le dérangeait un petit peu, quelque part, l'action de Jacques Roux. Et puis peut-être, Marat était très malade à ce moment-là, hein, au moment où nous nous situons, là, au début de l'été 93. Marat était très malade. Il restait chez lui parce qu'il se soignait. Alors, ne demandez pas sa maladie, parce que c'est compliqué. Il paraît qu'il avait un peu du diabète. Je pense qu'il était malade de la peau aussi. Il prenait des bains une partie de la journée. Il était très affaibli. Ses jours étaient-ils comptés? Probablement. De toute façon, vous savez, à cette époque-là, les jours étaient comptés pour la plupart des ténors révolutionnaires, que ce soit de la maladie ou par l'échafaud, hein, de toute façon. Alors Marat, bien sûr, il l'a rencontré l'année d'avant et il lui a proposé, comme Marat était toujours était un homme persécuté, hein, il fallait qu'il se cache, il a passé pratiquement toute la Révolution à se cacher dans des appartements, se cacher dans des caves, parfois même dans des égouts, ce qui n'a pas dû arranger sa santé, ça c'est sûr. Et il avait été hébergé par Jacques Roux au début de leur amitié, 6 jours, Jacques Roux l'a reçu. Et Jacques Roux se rappellera à son bon souvenir à ce moment-là. Voilà, mais Marat, lui, on ne sait pas pourquoi, même les historiens se posent parfois la question, pourquoi il est devenu très dur envers Jacques Roux, tout d'un coup. Le 4 juillet, dans son journal, qui ne s'appelle plus l'ami du peuple, mais le publiciste, il publie un article sur Jacques Roux, et les autres enragés aussi, mais surtout Jacques Roux, d'une telle dureté, d'une telle véhémence, que Jacques Roux est assommé. Et il tape très bas. Il tape très bas dans son discours, c'est là que les historiens en veulent à Marat. Ils trouvent que là, il n'a pas été élégant. Il tape très bas parce qu'il attaque sur des histoires de mœurs qu'il y aurait eu au séminaire à Angoulême, que le Derbois avait fait faire son enquête. Moi, je n'insiste pas là-dessus. Hein. On ne sait pas ce qui s'est passé. Après tout, on peut ranger ça au rang de la calomnie. Hein. Toujours est-il que, évidemment, Marat était quand même encore pas mal lu à ce moment-là et très populaire. Il va l'être encore plus dans quelques jours. Et Jacques Roux se rend chez lui. Il se dit, écoute, là, il faut que tu m'expliques, mais qu'est-ce que tu as été raconté dans... Et pourquoi tu me traites de Renaudie? Tu sais bien, je m'appelle Roux. Renaudie, j'ai pris ce faux nom quand je suis arrivé à Paris, mais moi, je m'appelle Roux, je ne m'appelle pas Renaudie, comme tu dis dans l'article. Et puis, il lui reproche, qu'est-ce que tu me reproches sur Connac, Saint-Thomas et tout cela? La discussion est très dure, il y a des témoins à ce moment-là. Il se quitte, pas en ami, hein, il se quitte en ennemi. Et à ce moment-là, Jacques Roux va faire une belle chose. Il va écrire une lettre. Tiens, il me semble que qu'il fera imprimer après. Ça s'appelle Jacques Roux à Marat. Et voici ici le début de cette lettre qui fait 16 ou 17 pages. Et si on est un petit peu là des propos de Jacques Roux, parfois qui sont des propos un peu durs, je vais quand même pas, je vous le concède. Ça, c'est une belle lettre. C'est une lettre d'un ami meurtri. Une lettre d'un ami qui ne comprend pas pourquoi, tout d'un coup, dans un article de journal, on l'a ainsi traîné dans la boue. Alors, il essaie de s'en expliquer. Bon, je ne vais pas trop insister, mais ce qui est sûr, c'est que cette lettre, elle est destinée à Marat. Or, quelques jours plus tard, Charlotte Corday rend visite au domicile de Marat et l'assassine. Marat ne lira jamais cette lettre. À ce moment-là, Marat assassiné, il va falloir essayer d'enquêter, parce que on n'est pas sûr que Charlotte soit véritablement à l'origine de cet assassinat. Peut-être qu'il y a un commanditaire derrière, vous comprenez? Et tout de suite, comme on se souvient, il y a eu des témoins qu'il y a eu une très vive discussion entre Marat et Jacques Roux quelques jours avant. Qui va-t-on accuser? Jacques Roux. Il va être arrêté le lendemain, questionné pour savoir s'il ne serait pas dans cet assassinat. Pas du tout. De toute façon, Jacques Roux ne connaissait pas Charlotte Corday. Il n'avait pas du tout les mêmes idées. Donc, il ne risquait pas de demander à Charlotte Corday de l'assassiner. De toute façon, ce n'était pas pensable. Donc, au bout de quelques heures, il sera relâché. Et finalement, il fera publier cette lettre, mais on n'est pas sûr qu'elle a été très lue, parce qu'à ce moment-là, la mort de Marat, ça a été un événement totalement considérable. On ne peut pas s'imaginer. Il n'y avait pas les médias d'aujourd'hui, mais ça a été un événement considérable parce qu'il était déjà aimé. Mais alors, ils en font un véritable martyr, le grand martyr de la Révolution. On va installer son buste partout, dans les tribunaux, partout. Hein,
pour le panthéonisme.
Ah, ben oui, bien sûr. Donc, à ce moment-là, que fait Jacques Roux? Qu'est-ce qu'il va faire de cette situation? Comment est-ce qu'il va s'y prendre? L'ami ennemi n'est plus là. Lui, le petit Marat, est toujours là. Qu'est-ce qu'il va faire de ce mois de juillet? Eh bien, c'est très simple. Avec son colistier, si je puis dire, dans Les Enragés, qui s'appelle Leclerc, l'un et l'autre vont reprendre l'organe de presse de Marat, son journal. Leclerc va appeler son journal l'ami du peuple, comme aux origines, et Jacques Roux va prendre le journal de Marat, Le Publiciste, qui s'appelait Le Publiciste jusqu'à début juillet, et ces deux hommes... L'un qui est très jeune, hein, Leclerc, il a 22 ans peut-être, et Jacques Roux, qui a à ce moment-là 42 ans, les deux vont poursuivre ce journal, pas sans culot quand même, parce que Jacques Roux dit qu'il écrit dans ce journal qu'il est l'ombre de Marat. Et il poursuit, alors peut-être un petit peu dans le même ton que Marat, c'est vrai. Et donc là, je ne peux pas vous donner analyse de tout ce qu'il a écrit pendant plusieurs mois dans ce journal, mais on retrouve toutes les grandes idées de Jacques Roux dans le journal, dans ce journal, qui sera le seul à rédiger d'ailleurs. Hein. Et il s'en prendra alors avec une dureté terrible à Marie-Antoinette. Il était, rappelons-nous que quand même, il rendait hommage à la famille royale début 90 et trois ans plus tard. C'est la haine absolue, hein, même une rage là. Hein. Il est véritablement un enragé contre cette pauvre famille royale qui est si durement frappée, l'un étant déjà guillotiné et l'autre qui attend son sort, qui lui sera bientôt réglé. Donc ce journal, il va le tenir pendant tout l'été, mais il y en a un qui ne va pas le lâcher. C'est Robespierre. Et Robespierre, à partir du mois d'août, va engager une procédure, hein, pour que petit à petit, on en arrive à le mettre en accusation. Car à ce moment-là, on faisait encore les choses un petit peu dans les règles. Hein, ça sera moins le cas avec le régime d'exception qu'il y aura dans l'hiver. Mais alors, pour le faire dans les règles, ça veut dire qu'on va essayer de trouver des points d'accusation qui pourront faire en sorte que l'on arrête Jacques Roux, c'est-à-dire que l'on le jette en prison. Alors, on va lui trouver différents chefs d'accusation. Par exemple, on va l'accuser d'avoir organisé des collectes dans le quartier des Gravilliers et de s'être mis de l'argent dans sa poche, qui est probablement faux. Mais à cette époque-là, il paraît que c'était une habitude de commencer par traiter les gens de voleurs et de les accuser sur ce terrain-là. Et donc il va subir cela, je vous dis tout à l'heure, on va l'accuser aussi d'avoir semé le trouble, d'avoir été à l'origine d'insurrection dans Paris. Enfin, tout cela va s'ajouter. Fin août, il va être arrêté une première fois, puis relâché. Et le 5 septembre, il va être emprisonné. À ce moment-là, il est totalement neutralisé. Et Robespierre, qui a fait son entrée au comité de salut public et qui maintenant il a une grande influence dans ce processus révolutionnaire et dans le gouvernement, évidemment qu'ils ont maintenant suffisamment de puissance pour pouvoir mettre aux arrêts et au silence ce pauvre vicaire de Saint-Nicolas-des-Champs. Mais le vicaire, lui, il ne désarme pas de sa prison. Il continue à tenir son journal. Il a des amis qui s'appellent les Jacques Routin. C'est mignon comme nom. Les Jacques Routin qui lui rendent visite, qui viennent chercher les textes. Il continue à publier les textes. Mais nous ne sommes pas garantis qu'il avait beaucoup, beaucoup de lecteurs. Mais il avait quand même des sympathisants. C'est vrai, il y avait un certain nombre de personnes qui le soutenaient encore. Et petite remarque, ses amis qu'on appelait les Jacques Routin et qui venaient parfois se réunir dans son appartement, quand ils seront arrêtés au mois de novembre, ils ont été courageux, ces amis, parce qu'ils n'ont pas désavoué Jacques Roux. Ils ont été arrêtés, ils risquaient gros, et finalement, quelques jours plus tard, ils seront relâchés, mais ils lui resteront fidèles. Ça, c'est important à dire. Hein. Ça, c'est important à dire. Est-ce qu'ils lui sont restés fidèles? Parce que c'était un homme honnête et un homme qui était droit dans ses idées, peut-être. Mais en tout cas, ils resteront fidèles à Jacques Roux. Et donc, ce publiciste... il faut quand même en dire quelques petits mots. Il fait alors d'abord, avant de parler de la terreur, parce qu'on ne peut pas ne pas parler de cela, il a une phrase qui est remarquable. parce qu'il joue profil bas, vous savez, dans l'été. Hein. Il dit du bien des Cordeliers, il dit du bien des Jacobins. Finalement, il dit du bien de la nouvelle constitution qu'il a combattue en juin. Là, nous sommes un petit peu dans les contradictions du personnage. Mais quand on étudie tous ces grands hommes de la Révolution, chez tous, on trouve des contradictions. C'est pas quelque chose d'étonnant. Et là, bon, c'est peut-être une tactique pour lui, parce qu'il sent un peu que le mal pourrait se mettre en travers de son chemin. Hein, il voit bien qu'il pourrait y avoir des soucis graves qui puissent survenir. Donc, il joue profil bas. Et alors, il a un mot fin juillet dans son journal qui me plaît beaucoup. Il dit « Ce qui m'étonne le plus dans la Révolution, ce n'est pas la prise de la Bastille. Ce qui m'étonne le plus dans la Révolution, ce n'est pas la prise des du château des Tuileries. Ce qui est remarquable dans les annales de notre histoire, c'est qu'au milieu de tant d'orages, de trahisons, de persécutions, de contradictions, le vaisseau de la République soit arrivé au port du salut. Étonnant, parce que la République, elle est quand même bien abîmée depuis... certes, elle a été proclamée il y a maintenant 7 ou 8 mois, mais avec la crise économique, la misère, l'indigence, avec la guerre aux frontières, la guerre en Vendée et dans d'autres provinces. Autant vous dire que il dit que la République est arrivée au port du salut, peut-être. Mais enfin, je crois qu'il veut jouer aussi un certain optimisme qui peut étonner. Mais... À côté de ça, il est quand même très conscient qu'il y a beaucoup de traîtres dans cette révolution, comme tous ses amis. Et alors, c'est là qu'ils en appellent.
Qu'ils en appellent
à la terreur. Et voilà. Parce que c'est ça. Et c'est ça, le grand procès. Alors, la terreur, évidemment, là, on a très peu de temps. Oui. C'est le talon d'Achille de la Révolution française. Et c'est vrai
déjà,
que...
Déjà, quand a-t-elle commencé? Pour certains, c'est déjà un problème.
Comment?
Déjà, quand a-t-elle commencé? Pour certains, c'est déjà une discussion. Et quand a-t-elle fini?
Quand a-t-elle commencé? Ça serait difficile à dire, mais quand est-ce qu'il y a eu le premier martyr? Oui, ça on le sait. Mm. Hein, c'est au moment de la mort du roi. Il y a un noble qui avait soutenu... un noble, le Pelletier de Saint-Fargeau, qui venait de la noblesse et qui avait osé voter la mort du roi. Il a été assassiné pour ça, puisqu'il avait trahi sa classe d'origine. Bon, allez, disons que grosso modo, la terreur, elle commence vraiment en 93. Et alors, il y a ceux qui appellent à la terreur et ceux qui appellent à la modération, comme des gens comme Camille Desmoulins ou d'autres. Et parmi ceux qui appellent à la terreur, évidemment, les plus terribles, si on peut dire d'entre eux, ce sont les enragés. Jacques Roux en tête. Alors, pourquoi cette terreur? Il voulait cette terreur parce que il voulait absolument, comme je disais tout à l'heure, faire barrage à tous les traîtres, et des traîtres, ils envoyaient partout. Ils envoyaient dans les rangs des royalistes, mais ils envoyaient aussi dans tous les partis, si vous voulez, tous ceux qui n'œuvraient pas suffisamment dans le sens où ils voulaient que lui, dans le sens qu'il espérait pour la Révolution. Et donc, le débat sur la peine de mort existait sous la Révolution. Mais les enragés ne s'embarrassent pas de ce débat. C'est clair, ils en appellent à la mort pour tous ceux qui complotent, pour tous ceux qui s'enrichissent, pour tous ceux qui détournent les marchandises, pour tous ceux qui spéculent. Et justement, ils se plaignaient que la peine de mort n'était pas inscrite dans la nouvelle constitution. Mais après, il y a une loi qui sera votée. Peine de mort contre les accapareurs et les spéculateurs. Donc la terreur, il l'appelle, elle est nommée la terreur. Hein. Je la considère même, tout le monde n'est pas d'accord avec ça, mais à partir de septembre, comme un principe de gouvernement. Quoi. C'est-à-dire, on la nomme, la terreur, et elle est là pour épurer la révolution, d'une certaine manière.
Purifier.
Et la purifier. Hein, parce que c'est la terreur au nom de la vertu. Voilà, c'était cela, finalement. La vertu, c'est un mot qui court beaucoup dans les discours de la Révolution, et en particulier dans la bouche de Robespierre, ou dans la bouche de Saint-Just, Robespierre qui disait « la terreur sans laquelle la vertu est impuissante ». Et la terreur aussi, disait-il Robespierre, pour consolider la démocratie, il faut donc terminer, terminer la guerre de la liberté contre la tyrannie. Eh bien, cette terreur, elle va de plus en plus prendre d'ampleur. Et Ce qui est extraordinaire dans son article, il reprochait aux enragés d'être un petit peu trop terrible, un petit peu trop pas assez tendre avec tout cela. Et alors, dans sa lettre que je vous ai montrée tout à l'heure, je vous ai montré la première page, Jacques Roux dit à Marat, il te sied bien mal, Marat, hein, de me reprocher d'avoir donné dans les extrêmes, hein, de forcer l'énergie pour faire du bruit. Toi, qui a écrit qu'il fallait planter 800 potences pour y accrocher les députés de l'Assemblée constituante et qu'il fallait abattre 60 000 têtes au commencement de la Révolution. C'est comme ça qu'on aurait réussi la Révolution. C'est toi, Marat, qui l'a dit. Hein. Oh, tu vois, tu n'es pas plus tendre que moi. Voilà, c'est ce que j'appelle la surenchère dans l'accusation, la surenchère dans l'application de la terreur. Et bien, surenchère, il y aura, vous le savez, puisque plus les mois vont passer, et puis plus on va tomber dans une sorte, non seulement de chaos, mais de panique, et qu'à cette panique, on répondra par toujours plus de terreur. Le problème, c'est qu'une fois que Jacques Roux est en prison, il se plaint. Il se plaint de quoi ? De la terreur. Eh bien, la terreur s'est retournée contre lui. Mais enfin, en réalité, il se plaint parce que il estime qu'on n'applique pas la terreur comme on aurait dû l'appliquer. C'est-à-dire que il dit oui, bien sûr, il fallait arrêter, mettre en arrestation, condamner, exécuter les vrais traîtres à la Révolution. Or, il dit, c'est pas ce qu'on est en train de faire, là. On jette en prison de pauvres gens, on jette en prison des patriotes, on jette en prison des gens qui ont soutenu la Révolution pendant des années, et puis il y en a d'autres, d'origine noble, par exemple, qui s'en sortent très bien. Et ça, il le dénonce avec forte véhémence, une dureté incroyable, parce que, bien sûr, maintenant, il est pris, il souffre en prison. Et donc, il n'a de cesse de dénoncer ce qu'il considère comme une terrible injustice. Il écrit, il est en prison à ce moment-là. Je sais que ce ne sont pas les traîtres, les monopoleurs, les agioteurs, les accapareurs, les sangsues publics qu'on met principalement en état d'arrestation. Il y a plus d'innocents incarcérés que de coupables. Et après, il ajoute, toujours les gros mangeront les petits. Celui qui porte des bas de soie, des culottes de velours, qui peut jeter en avant des assignats à des louis d'or, est sûrement sûr de ne pas coucher en prison. Et oui, l'exemple
Bordelais, d'ailleurs.
Oui, pourquoi ?
Ben la sélectivité, en fait, des condamnés à mort, quoi. Ah oui, pardon. Non, mais
Oui. La terreur à Bordeaux est un très bon exemple. Elle va être instituée à partir d'octobre, quand ce fameux Talien terrible arrive dans Bordeaux. Il a 25 ans, 26 ans, il est jeune, il est ambitieux, et il est là pour remettre cette ville dans le droit chemin, parce qu'ils estiment qu'elle est dans un état insurrectionnel qui n'est pas supportable, en tout cas pour les gens du comité de salut public, et donc il faut en quelque sorte punir cette ville. Seulement, quand Talien arrive avec sa guillotine sur la charrette dans Bordeaux, il rencontre dans les prisons une jeune femme, Teresa Cabarrus. Elle a 20 ans, elle lui fait du charme, il arrive à la faire sortir de prison, il devient amant. Seulement, Teresa, elle, la terreur, ce n'est pas trop son affaire. Disons qu'elle va tout faire pour que son amant Talien soit un petit peu plus clément envers les Bordelais. Et c'est comme ça que beaucoup de riches Bordelais vont racheter leur vie, leur liberté, en payant cher Teresa pour se sauver d'affaire. Et beaucoup, beaucoup comme ça. Alors, Teresa va toucher beaucoup d'argent, bien sûr, italien. Et ça va durer comme ça pendant plusieurs mois. Il y aura des exécutions. Mais il y en a beaucoup qui vont réussir à se tirer d'affaire. Et nous avons les témoignages d'un Bordelais qui s'est caché pendant la terreur à Bordeaux. Et alors, il nous donne beaucoup de détails. Je peux vous dire que c'était quand même un véritable état de dictature à ce moment-là qui était dans Bordeaux. Avec des affiches partout, des dénonciations. Sur toutes les portes, il fallait mettre les noms des occupants des maisons. Les gens étaient surveillés. C'était quand même un état très dur contre la population. Et c'est comme ça que ceux qui avaient la possibilité de pouvoir s'en sortir payaient pour cela. Et donc, on va se rendre compte au bout de plusieurs mois qu'il n'y a pas assez d'exécutions dans la ville. Talien va être appelé à Paris, rappelé pour s'expliquer. Et à la place, on va envoyer un jeune, encore plus terrible que Talien, qui s'appelle Julien. Et lui, en deux mois, juin, juillet à Bordeaux, sur les presque 300 exécutions qu'il y a dans Bordeaux, il en fait faire 200 en deux mois. Place Gambetta.
Alors, c'est cela que Jacques Roux dénonce dans sa prison. Il dit, vous comprenez, vous avez de l'argent, eh bien, vous vous en sortez. Vous avez été royaliste toute votre vie, pas de problème. Si vous avez de l'argent, vous pouvez racheter votre liberté. Et nous, pauvres patriotes, et ce Bordelais là qui a laissé ses mémoires faisait les mêmes dénonciations. Il disait, c'est quand même incroyable, il y a des gens qui ont été fidèles à la Révolution pendant des années, et tout d'un coup, on les arrête, on les jette en prison, voire même on les exécute. Alors évidemment, ça, vous doutez bien que ça a suscité beaucoup, beaucoup de rancœur et même de colère contre tous ces gens qui donnait les ordres à Paris et qui avait donc instauré cette terreur, cette grande terreur, comme on dit désormais, dans l'hiver 93-94. Mais Jacques Roux, lui, il est en prison et puis il ne s'en sortira plus. Il s'en sortira plus. Il essaie d'écrire encore jusqu'en octobre-novembre et puis il n'écrira plus. À la fin, il ne datera même plus ses journaux. Ce n'aura plus. Il va finir par abjurer. Il quittera la religion. Dans son âme, hein, de toute façon, il est en prison. Il ne lui restera plus que Dieu, car il ne rejette pas Dieu. Il rejette tout ce qui peut constituer, tout ce qui peut être, tout ce qui peut s'apparenter au clergé. Il rejette tout cela. Et il se retrouve seul, bien sûr, très seul. Il n'a pas de famille, il n'a pas de visite, ou très peu. Et finalement, son procès est prévu pour janvier 94. Et quand il comparaît une première fois, il se poignarde en plein tribunal. Alors, on arrive à... Les organes vitaux ne sont pas touchés. On arrive à l'évacuer de la salle. On lui demande pourquoi il a fait ça. Lui, il a toujours dit qu'il était prêt à donner son sang et sa vie pour la Révolution. Bien. On le ramène dans sa cellule et... là, il sombre dans un véritable désespoir. Hein. Il sait que maintenant, de toute façon, ce qu'il a très peur, c'est le verdict du procès. Et au-delà du verdict, bien sûr, il a peur de l'échafaud. Et finalement, il va se donner la mort pour de bon. Il va se poignarder une seconde fois. Le poumon sera atteint et il mourra en fin de journée. Voilà. Donc, il a eu une vie tourmentée, peut-être, mais il a une fin terrible. Ils sont quelques-uns comme ça, parmi les chefs révolutionnaires à s'être suicidés. Le plus célèbre, c'est Condorcet, hein, qui s'était suicidé, mais autrement, parce qu'il avait voulu échapper à cette infamie constituée de gravir les marges de l'échafaud et d'être guillotiné. Et vous voyez, Jacques Roux aussi se suicide. Lui, il veut échapper, lui aussi, à ce supplice. Alors, ce prêtre qui se disait confesseur des malades et qui a eu beaucoup d'influence, vous savez, il a fait quand même, on a oublié d'en parler, mais c'est peut-être un peu tard. Il est quand même avec les enragés à l'origine d'une loi, qui s'appelait le maximum, qui a été votée par la Convention sous pression des enragés, sous pression de Jacques Roux. C'était une loi qui prévoyait qu'on fixe un prix plancher pour les denrées de première nécessité, car les prix étaient trop élevés. Cette loi sera même renforcée dans l'automne, étonnamment d'ailleurs, parce que les montagnards ont toujours dit que s'ils avaient voté cette loi, c'était à cause des enragés, parce qu'ils les avaient plus ou moins forcés et qu'ils craignaient encore plus d'insurrection dans la ville et qu'ils avaient été un petit peu forcés de faire cela. Mais eh bien, en tout cas, cette loi, elle a été très mal appliquée, elle sera supprimée 18 mois plus tard. Mais bon, ils ont quand même eu une influence importante dans cette année 93. Tous les bons livres d'histoire sur la Révolution en parlent. Ils parlent de ces enragés, ils parlent de leur du poids qu'ils ont eu dans cette Révolution. Mais dans beaucoup d'autres livres, on n'en parle pas, bien sûr. Et donc, c'est quand même quelqu'un qui n'a pas eu de poste de pouvoir. Il n'a pas eu un poste de pouvoir. C'est-à-dire, parfois, on se pose la question, mais enfin, s'il avait été un homme influent, s'il avait gouverné, est-ce qu'il aurait été aussi terrible qu'il le disait dans ses écrits ? Il fait guillotiner énormément de monde, il y aurait eu la guillotine, sans doute, sous son gouvernement. Hein, mais jusqu'à quel point, on ne peut pas savoir. Ce qui est sûr, je vous le disais tout à l'heure, c'est qu'il a été intègre. Hein, c'est quand même quelqu'un qui ne s'est pas enrichi honteusement, bien au contraire. Et il était furieusement porté par un idéal de démocratie populaire. Et il était aussi... il voulait défendre une certaine idée, on parlait tout à l'heure de la vertu, mais aussi une certaine idée de la justice. Oui, c'était justice cela. Sociale, la justice sociale. C'est pour ça qu'il est précurseur. Donc, Jaurès, qui parle de lui, pas forcément en mauvais termes, bien au contraire, a vu en lui tantôt un mystique furieux, mais tantôt aussi un vicaire savoyard. Et d'ailleurs, je consacre une page et demie ce qu'était le vicaire savoyard selon Jean-Jacques Rousseau. Et je disais tout à l'heure que beaucoup de prêtres ont été proches de cette religion naturelle, hein, cette religion des origines. Et c'est peut-être, c'est sans doute pour ça que Jaurès a eu ce mot-là. Donc, on peut dire aussi, moi, c'est ce qui m'a frappé quand j'ai écrit le livre, c'est que moi, je trouve dans cette révolution vraiment de la modernité. Hein. On est au début des... j'aurais envie de dire des nouvelles insurrections, au niveau d'un bouillonnement d'idées, des femmes qui se mettent en avant, qui se battent aussi, même si elles rencontrent beaucoup de difficultés. Et on parlait l'autre jour, tous les deux, aussi. Voilà, la naissance de ce qu'ils appelaient déjà à l'époque l'opinion publique. Vous voyez, ce sont des termes, aujourd'hui pour nous, ça nous est naturel, mais à cette époque-là, ça avait une résonance toute nouvelle. Hein. Donc la Révolution, bien sûr, elle a une importance immense dans notre histoire, et sans doute à cause de ça, parce que elle est précurseur, la Révolution, de tout ce qui va se passer après, et en particulier au niveau des mouvements sociaux, hein, au niveau de toutes ces luttes populaires qui seront engagées dans l'avenir en France. Et Jacques Roux, il était au cœur de tout cela, au cœur de ces revendications-là. Et quand je voyais ces mouvements d'indignés il y a quelques 2 ou 3 ans à la télévision, et je me disais, tiens, on verrait presque une correspondance entre ces enragés. Vous voyez que Robespierre, il se méfiait d'eux, donc, parce qu'on ne pouvait pas les contrôler. Et les indignés qui ont, par exemple, mis le feu aux établissements publics à Athènes, on avait l'impression aussi qu'ils devenaient incontrôlables et que personne ne les gérait, ne les dirigeait. Et c'était déjà, hein, ce qu'on craignait en 93, c'est-à-dire qu'un mouvement parte comme ça et qu'il devienne incontrôlable. Et donc, il y a comme ça et c'est vrai que les gens que je voyais enflammer les bâtiments publics, je me disais, mais ils ont la rage pour faire cela. Donc, ils étaient sans doute des enragés.
Voilà. Pour détendre un peu, après cette conférence très, très dense, petite anecdote liée à l'école. Mon fils Thomas, que certains connaissent ici, qui a un exercice sur les symboles de la République, hein, donc Marianne, etc., etc. Et on arrive au fameux drapeau tricolore et son origine, hein, d'où vient le drapeau tricolore, parce que vous le disiez tout à l'heure, à l'origine de la Révolution française, c'est les couleurs de Paris, le bleu et le rouge, qui sont les couleurs prises dès le départ par les révolutionnaires. Et la cocarde apparaît aussi très très vite, c'est-à-dire la couleur blanche, c'est la couleur du roi, hein, depuis Henri IV, hein, ralliez-vous à mon panache blanc, etc. Et donc le maire de Paris de l'époque, qui s'appelle Bailly, c'est un prénom un peu compliqué, le prénom est compliqué, pas le nom, va mettre accolé en fait aux couleurs de Paris le blanc, et ça va devenir la cocarde que, je ne sais pas si vous vous rappelez, on va donner à Louis XVI à l'hôtel de ville, là aussi en octobre, quand Paris accueille le retour du roi. Et donc, mon fils me dit, parce que c'est un mot d'enfant qui est trop... Ah oui, le blanc, c'est donc le fond d'écran du couleur du roi.
Voilà. Eh bien, mon mot de la fin, moi, c'est celui-là. J'ai une élève qui a à peu près 11 ans, qui me dit hier, « C'est demain, monsieur, que vous faites la conférence chez Mola pour le curé du Moulin Rouge ?» Et là, j'ai imaginé mon prêtre dans une revue. Merci d'être venu m'écouter.